carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Dans le monde de la verrerie d'art, son nom fait rêver. Il a également créé des bijoux qui ont profondément marqué l'histoire de la joaillerie. C'est un artisan qui est devenu un grand artiste. À Paris, le musée du Luxembourg lui consacre aujourd'hui une exposition exceptionnelle, précisément intitulée « Bijoux d'exception » de René Lalique. Dans le guide officiel de cette exposition, M. Christian Poncelet, président du Sénat, nous rappelle en préface que le Palais du Luxembourg, placé sous la responsabilité du Sénat, fut à partir de 1750 l'un des premiers musées européens de peinture. Léonard, Le Titien, Véronèse, Rembrandt ou encore Poussin ou Raphaël, autant de grandes signatures et d'œuvres majeures que le public pouvait admirer dans ses murs. Maître joaillier et un maître verrier de l'art nouveau, René Lalique aimait la femme. Il aimait les femmes et ce sont deux femmes qui assurent le commissariat de cette exposition. Et Canal Académie a le plaisir de recevoir Dani Soto, historienne d'art, qui est l'une des deux commissaires de l'exposition. Madame Dani Soto, bonjour.
Bonjour.
Vous avez déjà été en charge de grandes expositions internationales, notamment des cristalleries de Baccarat aux États-Unis, au Japon et en Europe. Il n'est donc pas tout à fait surprenant que votre parcours ait rencontré l'œuvre de René Lalique, le célèbre verrier que l'on sait. Pouvez-vous nous dire un mot de cette rencontre ?
Alors cette rencontre, en fait, elle n'est pas tellement due au verre, curieusement, mais plus des connaissances. Enfin, je travaille beaucoup dans le domaine de la botanique.
Oui.
En fait, quand Yvonne Brunamer a été chargée de réaliser cette exposition Lalique...
Oui, c'est donc la deuxième commissaire.
Voilà, le deuxième commissaire, qui est l'ancien conservateur en chef du Musée des Arts Décoratifs, à qui on devait déjà la première exposition Lalique sur les bijoux en 1991,
oui,
aux Arts Déco. Et donc, quand elle a eu en charge cette exposition, elle m'a demandé d'assurer le co-commissariat, mais en apportant justement une lecture un petit peu en regard avec l'histoire de la botanique à la fin du 19e siècle et donc du japonisme.
Oui, qui était très 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 en vogue.
Voilà, qui est très en vogue.
Il y avait même des grandes polémiques au sujet d'expositions d'horticulture, de jardinage.
Ah oui, oui, il y a eu des bagarres même par journaux interposés à propos de bégonia tubéreux, de noms de roses et tout ça avec des gens, des signatures comme Rémy Gourmont par exemple, qui était un auteur très connu. Et notamment qui a polémiqué avec Émile Gallet à propos d'une plante.
Oui.
Donc c'était vraiment un intérêt, on a beaucoup de mal à s'en rendre compte aujourd'hui, qui suscitait des passions. Il y avait,
oui,
vraiment des passions,
ah,
autour,
oui,
des plantes.
C'était un regard particulier.
Complètement, oui.
René Lalique vous lie cet amour et cet intérêt pour la botanique, mais également, bien sûr, par rapport au cristal.
Par rapport au cristal, ce sera plutôt à partir des années 1900. Cette exposition traite en fait de 10 années de création, avec un petit peu des années de préparation et un petit peu les années après 1900 pour montrer vers où il va évoluer, c'est-à-dire le verre. Mais vraiment, on touche vraiment sur 10 ans de création, une espèce de cycle parfait, du début à la fin, autour des bijoux. Et donc, il y a un petit peu de verre, mais ce n'est pas encore un maître,
oui,
verrier.
Oui, c'est venu un peu plus tard.
Ouais.
Oui. Maintenant, on est donc particulièrement intéressé par René Lalique, le grand joaillier. Et alors, il a commencé comme simple dessinateur de bijoux pour Boucheron, enfin pour quelques joailliers déjà,
ouais,
de grande renommée au Palais Royal. Et René Lalique est devenu vraiment, on peut dire, le plus fameux des orfèvres de l'art nouveau. Et son grand aîné, Émile Gallet, reconnaissait en lui l'inventeur du bijou moderne. On peut dire qu'il a élevé le bijou au rang d'art majeur. J'aimerais bien savoir, d'après vous, que lui a-t-il donc apporté de nouveau ? Il a en quelque sorte peut-être transgressé certains codes.
Il a tout à fait transgressé les codes de la joaillerie traditionnelle, dans le sens où les bijoux, avant Lalique, sont avant tout des démonstrations comment mettre le plus de diamants, comment cacher les montures. Il s'agit de pièces qui sont avant tout un signe extérieur de richesse. En plus, les bijoux étaient quand même considérés comme faisant partie d'un patrimoine familial, c'est-à-dire quand un bijou pouvait se transmettre d'une mère à ses deux filles, et on pouvait couper, enfin casser le bijou en deux pour constituer d'autres bijoux. Et en fait, avec une pièce de lalique, c'est impossible. C'est une œuvre en soi, on ne peut pas y toucher. Il utilise pas beaucoup le diamant. Il utilise des pierres qui sont des pierres dites semi-précieuses. Et puis surtout, il fait intervenir d'autres matériaux qui ne sont absolument pas des matériaux nobles. Chaque bijou est une représentation en
soi. Comme un tableau,
absolument.
Oui, tout à fait. Donc avec des matières absolument somptueuses que nous allons peut-être voir plus en détail tout à l'heure. Alors on pourrait parler d'un avant et d'un après lalique.
Dans la féverie, il y a une joaillerie traditionnelle, bon, avec des gens très bien, enfin je pense à des gens comme Boucheron, comme Vévert. Et puis il y a lalique, il y a ce raz-de-marée, parce qu'il propose, qui est quand même inimaginable à l'époque. Et puis l'après lalique, bon, c'est cette liberté qu'il instaure aussi dans la façon de travailler les bijoux.
Et qui... dorénavant, fera donc référence.
Tout à fait.
Oui. Mais peut-être que vous pouvez nous resituer un petit peu cette mutation dans la biographie de lalique. Quelles sont par exemple les grandes étapes décisives? Donc il est né en 1860. Il a eu une longue vie. Il est décédé en 1945, donc ça nous fait 85 ans.
Lalique joaillier, en fait, s'arrête, on va dire, vers 1905. Et après, c'est un autre homme. J'aurais presque un capitaine d'industrie, on a envie de dire. Oui, il va créer son usine de cristallerie. Lui-même ne va plus jamais parler de cette période durant laquelle il a créé toutes ces merveilles au point de vue bijoux. Et ça va être redécouvert dans les années 30, vers 1933, par une exposition au Musée des Arts Décoratifs où on va remontrer des bijoux. Mais c'est une exposition, lalique n'y adhère pas parce qu'il n'a pas envie que l'on reparle de cette période. Donc il a tout fait, voilà, en 10 ans, il a tout prouvé avec les bijoux. Et puis après, bon, il continuera à faire des bijoux en cristal, mais il n'y aura plus ces pièces uniques comme durant ces 10 ans. Donc ça, c'est un petit peu révélateur.
Durant quelle époque alors? Comme le titre de cette exposition, entre 1890 et 1912,
on a poussé jusqu'en 1912 parce qu'on voulait vraiment montrer cette transition entre le joaillier et l'homme de cristal.
Oui.
Donc il commence en 1902-1903. Il y a encore un mélange, il y a encore des bijoux, mais où il fait de plus en plus appel au verre. Mais ces bijoux uniques qu'il a fait, enfin que l'on montre, qui vont donc jusqu'en 1900, puisqu'en 1900 c'est l'apothéose, mais ce sont des bijoux uniques et après c'est terminé. C'est une histoire qui se termine, il passe à autre chose.
De 1860 à 1900, ça nous fait 40 ans, pardon.
Oui, enfin 1860, il vient juste de naître, donc il est un peu...
je veux dire, à l'âge de 40 ans, en 1900,
voilà, tout à fait.
À l'occasion de l'exposition universelle, la fameuse exposition universelle à Paris, où il arrive à une apothéose, comme vous venez de dire. Il est très connu à ce moment-là, et après... Si j'ai bien compris, il ne revendique pas spécialement cette période, cette ascension vers l'artiste joaillier.
Oui, mais il va se tourner vers tout à fait autre chose, qui va être le travail du verre, qui va l'accaparer, où il va inventer énormément de choses dans le verre. Attention, reste un inventeur aussi au niveau du verre. Oui. Juste après les bijoux, ça deviendra aussi l'inventeur du flaconnage de parfumerie moderne. C'est lui qui l'invente.
Ou d'abat-jour, etc. Enfin, toute cette
voilà, œuvre, beaucoup de choses qui va... Voilà,
de verrier.
Oui, tout à fait.
Mais c'est vrai, il a un esprit d'entrepreneur, déjà assez tôt. Je crois il a 18 ans, il va à Londres. Ça se faisait beaucoup à l'époque?
Ça se faisait, il y avait des voyages comme ça, les jeunes gens qui savaient dessiner, ça arrivait, enfin que les gens partent, les gens étaient beaucoup plus prêts à voyager, qu'ils ne le sont peut-être plus aujourd'hui, mais enfin il y a encore quelques années. C'est-à-dire on partait et c'était un petit peu une formation. Les voyages d'études, on pense à Émile Gallet a beaucoup voyagé aussi quand il était jeune. Les écrivains voyageaient beaucoup. Donc on allait quand même se confronter à l'extérieur. Et pour lalique, elle est en Angleterre, il est dessinateur, il va quand même là où se passent les choses, dans le creuset quand même.
Oui, parce qu'on peut peut-être rappeler à cette occasion, l'origine de l'art nouveau, c'est dans Arts and Crafts, qui est un mouvement né en Angleterre.
Absolument, c'est une de William Morris. Je dirais que c'est aussi un concours de circonstances parce que si on revient un petit peu à ce qui se passe en France dans les années 60, 70, voire 80, la France est dans une période d'éclectisme total au point de vue art décoratif. C'est-à-dire il y a des influences qui viennent aussi bien de la Grèce que de l'Antiquité romaine. que de la Renaissance, que du Moyen-Âge, un Moyen-Âge qui a été revu, revisité par Viollet-le-Duc. L'Égypte est très importante, puisqu'on reste encore sous le souvenir de Napoléon.
Napoléon, bien sûr.
Et donc tout ça se mélange quelquefois sur des mêmes pièces. Je ne pense pas du tout à Lalique. Mais dans les grandes maisons, les grandes manufactures françaises, il y a des choses qui sont quand même assez étonnantes,
inspirées,
voire redoutables, quelquefois, parce que on tombe sur des pièces qui deviennent complètement loufoques, presque, tellement il y a d'influence.
Ah oui. Entre le pré-raphaélisme, éventuellement, plus l'antiquité grecque, revisité
par notre influence.
Oui,
c'est vraiment un mélange. Et donc, il y a une panne d'imagination.
Ah oui.
Et quelque chose va venir quand même bousculer tout ça, c'est la découverte du Japon. C'est-à-dire, le Japon s'ouvre au monde occidental en 1867, et en particulier à l'exposition universelle de Paris, où on va découvrir pour la première fois des objets japonais. Il y a des milliers d'objets japonais qui sortent pour la première fois du Japon. Et la simplicité, le traitement de la nature aussi dans ces objets, va créer une véritable révolution dans les arts décoratifs.
Oui.
Donc là, on rejoint aussi le art and craft, mais il y a aussi cette influence du Japon qui est très très importante, aussi bien en France qu'en Angleterre et en Allemagne, en Autriche.
Oui, enfin, ce mouvement d'art nouveau tout à fait européen, bien sûr. En commençant donc en Angleterre, mais en Belgique, en Italie,
bien sûr,
en Allemagne, en Autriche, le mouvement de la sécession, etc. Oui.
Voilà.
D'ailleurs, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent trouver sur notre antenne toute une série consacrée à l'art nouveau. Mais pour revenir donc à cette exposition universelle, on peut peut-être citer à ce moment-là Samuel Bing, qui a ouvert à Paris une première galerie, la Maison de l'Art Nouveau.
Oui, de l'Art Nouveau, tout à fait.
Et alors, c'était un centre culturel, enfin un centre artistique où
c'était
se sont
rencontrés les
beaux esprits, les grands esprits de l'époque.
Ah oui, et puis quand il y avait des arrivages, par exemple, du Japon, Samuel Bing réunissait ses grands collectionneurs et il ouvrait les malles devant les collectionneurs. C'était vraiment attendu. Et alors maintenant, pour refaire le lien avec la botanique, à la même époque, dans les jardins botaniques français ou européens, toute malle qui arrivait aussi du Japon, parce qu'elles arrivaient aussi avec les petites graines, les plantes, enfin les petites plantules, etc., créaient le même enthousiasme. Donc on est vraiment dans une époque japonisante, mais là, vraiment, je parle de révolution, mais c'est une révolution.
Oui.
Une révolution du regard, la sensibilité, et ensuite, évidemment, qui va se traduire à travers les bijoux, les objets, et même l'architecture, enfin, ça ira très loin.
Donc, Lalique nage ou surfe dans ce monde quand même très, très poétique.
Ouais,
parce que tout ce qui est lié à cet esprit japonais est très poétique, très, très subtil, très fin.
Ouais.
Et il fait partie intégrante de ce milieu.
Tout à fait, il fait partie intégrante dans le sens où donc il expose chez Bing, que sa sensibilité est naturellement liée à ce mouvement. Si on regarde les pièces, on reparlera tout à l'heure, mais les pièces de l'exposition, beaucoup portent justement cet intérêt pour la nature. Et même, on retrouve le regard du petit garçon qui, quand il était avec son grand-père, il passait ses vacances en Champagne, et il allait herboriser avec son grand-père, et il regardait les insectes, il regardait les plantes, il regardait toute cette vie qui se passe dans la nature.
Il était déjà très observateur de la
nature.
Tout
à fait.
Petit garçon.
Et quand tout ça, lié avec le japonisme, va donner une expression à part, vraiment une expression. C'est vraiment un artiste de son temps. Enfin,
Et un artiste inné. Enfin, il a vraiment suivi, on peut imaginer, un vrai destin. Ça lui a été donné dans son berceau. Cette nature observatrice, il en a fait vraiment un art majeur. C'est une belle création en soi. Par contre, on peut dire aussi que durant cette période, plus ou moins, enfin en tout cas au début du XXe siècle, l'Europe a connu deux grandes guerres terribles, avec vraiment des périodes dramatiques qui ont laissé des traces dans beaucoup d'autres domaines artistiques. Et on a l'impression que Lalique, on ne trouve pas trace de cette période de guerre, enfin de ces périodes de guerre.
Non, on ne trouve pas de traces.
Il reste dans la pure poésie,
dans la pure
monde
poésie,
végétal, animal.
Oui, j'imagine, en 14, j'imagine qu'il reste quand même dans la création. En même temps, c'est très curieux, on n'a vraiment pas de traces. Les écrits de Lalique, en fait, tournent toujours autour de son travail. Puis quand tu as la Seconde Guerre mondiale, bon, bah, il est déjà verrier, ses usines sont fermées, ça, on sait que ses usines ont fermé durant la guerre. Mais bon, on n'a jamais de traces de ce que lui a éprouvé. En tout cas, lui, quelqu'un qui un travailleur acharné, peut-être comme beaucoup de travailleurs acharnés, un petit peu enfermé dans son monde, enfin enfermé dans sa création. C'est quelqu'un qui vit déjà de façon très internationale. Il voyage très tôt, il va aux États-Unis, il a une clientèle dans le monde entier. Donc c'est quelqu'un qui est complètement dans un monde déjà, dans un monde très international et d'élite.
Alors qu'il est né plutôt dans un milieu pauvre.
Pauvre, en tout cas très modeste, et que son père est mort, il avait 16 ans, donc il a dû tout de suite travailler. C'est là d'ailleurs où il apprend vraiment à dessiner, parce que bon, c'était un dessinateur très 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 doué. Donc il poursuit cette voie dans le dessin, ensuite il a envie de créer des bijoux, et en fait toute sa vie sera comme ça, il apprend longtemps, enfin il apprend et il se donne les moyens d'être un parfait artisan, un parfait dessinateur. Ensuite, ça serait un parfait industriel. Maintenant, l'influence du monde extérieur sur sa vie, un petit peu, on a peu de traces, quoi. Vraiment, c'est un...
Oui. Oui, il reste dans son monde de, créateur et de,
certainement.
De merveille. Oui, c'est étonnant, mais voilà, la réalité est telle. Vous disiez qu'il avait donc un rayonnement international. Il commence à se constituer aussi une petite fortune respectable. Bien sûr, parce que les grandes fortunes de l'époque, l'aristocratie internationale s'intéresse vraiment énormément à ses créations. Et on se devait à l'époque de porter du Lalique, comme aujourd'hui, je ne sais pas quelle comparaison on pourrait trouver. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un peu plus démocratisé, disons.
Mais... Oui, tout à fait. Mais en même temps, il fait la conquête quand même de quelques femmes qui sont de véritables symboles à la fin du 19e siècle. Enfin, on pense à Claude Mérode, on pense évidemment à la grande égérie qui est Sarah Bernhardt. Bon, Sarah Bernhardt est connue dans le monde entier. Donc, elle porte du Lalique, sur scène, elle porte du Lalique, à la ville, elle porte du Lalique. Donc, automatiquement, c'est sa meilleure ambassadrice. Donc, c'est vrai que aussi à travers Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt lui ouvre beaucoup de portes en Angleterre, lui ouvre beaucoup de portes aux États-Unis. Donc il a cette muse, en fait. C'est un petit peu comme si Madonna portait les bijoux d'un seul créateur. Et...
Mais il y a aussi l'aristocratie, enfin le monde politique, le monde...
Et donc le monde politique qui vient, enfin le monde politique.
Artistique également.
Le monde artistique, oui.
S'intéresse beaucoup à ses créations. Enfin, ça devient vraiment un personnage très très célèbre
très célèbre et qui reste en même temps un artisan. Quand on lit sa correspondance, c'est étonnant parce qu'il a une mentalité vraiment d'artisan. Il ne parle pas tellement de Sarah Bernhardt, bon, c'est Sarah. Il ne nous livre pas grand chose, en tout cas, de détails sur cette vie qu'il passe, je sais pas, dans les palaces quand il suit Sarah Bernhardt. Non, il est toujours à l'affût.
Il reste pas beaucoup de traces biographiques de.
Mais ces traces biographiques, il parle vraiment, il est obsédé par son travail, par ses créations. Oui. Donc il va parler de pierres qu'il a trouvées, je sais pas, à Londres, de petits scarabées que des amis lui ont rapportés d'Égypte. Mais tout ça, tout est tourné autour
de son travail. Ses découvertes et de ses recherches.
Voilà,
parce que comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'était un travailleur acharné notamment à une certaine période. Ouais. Et quel type d'homme était-ce ?
C'était un homme, quel type ? C'était d'abord un amoureux des femmes, ça c'est...
Oui.
C'était un séducteur.
Ah oui. Était-il beau ?
Beau, ça c'est difficile, c'est très difficile, il y a des photos de lui. Bon, il avait un beau regard, il avait des yeux très noirs, très intenses. Beau, j'imagine que beaucoup de femmes ont dû le trouver très beau, sinon on n'aurait pas eu tant de succès. Mais bon, je ne sais pas quels sont les canons de la beauté auxquels on... Voilà, donc, mais c'était un homme certainement très séducteur, enfin, qui...
Oui, donc un homme séducteur, mais il était très amoureux de sa femme. Je ne sais plus si c'était sa première ou sa deuxième femme, Alice.
Sa seconde femme, Alice.
Oui. Et elle lui a donné des enfants.
Il a deux enfants avec Alice. Oui. Il a une fille, d'abord Suzanne.
Oui.
Et ensuite, il aura Marc. Donc Marc qui reprendra ensuite les verreries, qui s'illustrera en tant que créateur aussi dans la cristallerie Lalique.
Oui. Donc, il reprend le côté entreprise.
Entreprise et vert.
De son père.
Tout à fait.
Et Suzanne, il était très attaché, je crois.
Il était très attaché à sa fille Suzanne. Il y a beaucoup de courriers qui restent. Et il aimait beaucoup sa fille Suzanne.
Il a eu d'autres enfants ?
Il a eu d'autres enfants par la suite.
Un peu partout.
Non, pas du tout un peu partout. Mais bon, voilà, on est au début du XXe siècle. C'est un homme séducteur. Donc, évidemment, donc, il a d'autres.
Et comme il était très, très entouré, très adulé. Bon, enfin, on a vu le créateur, on a vu l'homme, donc le séducteur qui était très adulé et probablement invité dans les grandes maisons de ce monde, n'est-ce pas?
Tout à fait. On venait voir les pièces de Lalique. Il y avait vraiment une surenchère autour des pièces de Lalique, autour de ces bijoux assez exceptionnels.
Et ces contemporains aussi, Maître Verrier, très fameux. Par exemple, Émile Gallet, on l'a évoqué tout à l'heure, mais aussi les frères Dôme ou encore Legras, c'était toute une période quand même d'invention du verre, avec
tout
le verre mollet, etc.,
ouais.
Ou l'opale. Est-ce qu'ils étaient amis, se sont regroupés dans...
Non, la Ligue, non.
C'était individualiste alors.
Oui, et puis surtout à cette époque, la Ligue fait vraiment beaucoup, beaucoup de bijoux. Donc, il n'est pas encore dans cette histoire du verre. Il est tout seul dans cette histoire du verre, sauf qu'il est soutenu par le directeur de Saint-Gobain, qui s'appelait Jules Henriveau. Et parce que donc, il s'intéresse au verre, mais il n'est pas encore un artiste verrier. Mais il a un four, il bénéficie quand même de l'aide des conseils de Jules Henriveau.
Oui.
Et donc, il va vraiment s'intéresser au verre, mais surtout, il va s'intéresser d'abord au travail des émaux, qui ressemble beaucoup au travail du verre. Puis ensuite, il va s'intéresser au travail du verre. Et quand il va vraiment se lancer dans le travail du verre, c'est-à-dire très tôt, enfin, on a des pièces qui datent de 1900 dans l'exposition, où il réinvente une recette du verre opalin, il souffle le verre dans des armatures en métal. Dôme fait ça aussi à la même époque. Mais bon, voilà, Lalique le fait de façon différente. Et puis surtout quand il réinvente l'opale, c'est pour retrouver ces pierres d'opale dont on parlera tout à l'heure, des bijoux.
Oui.
Enfin, des pierres qu'il utilise dans ses bijoux. Mais l'opale est une pierre qui l'obsède et qu'il va réussir à recréer avec le verre.
Mm-hmm.
Donc c'est un travail un petit peu différent, mais il a peu de contact avec les artistes.
De cette époque,
oui. Il a plus de contact avec les gens du théâtre, je dirais.
Mm-hmm. Oui.
Avec Rostand, avec...
Peut-être à cause de Sarah Bernard,
de Sarah,
justement.
Et bon, par exemple avec Montesquieu. Tout à fait.
Ah oui. Bon, écoutez, après une courte pause qu'on va s'accorder, nous allons tout à l'heure vous suivre pour une visite de toutes ces merveilles que présente cette exposition consacrée donc aux bijoux d'exception de René Lalique. Nous sommes en compagnie de Dany Sotto. Madame Dany Sotto, vous qui avez ensemble avec Yvonne Brunamer assuré le commissariat de l'exposition des bijoux d'exception de René Lalique au musée du Luxembourg, vous nous avez tout à l'heure parlé de René Lalique, le créateur et l'homme. Pouvez-vous maintenant nous parler
précisément de cette exposition consacrée à ces bijoux. Elle rassemble tout de même plus de 300 œuvres, des dessins, des modèles, des esquisses, des photographies, des peintures, des sculptures, mais évidemment avant tout des bijoux d'exception que Lalique a créés entre 1890 et 1912. Donc tout à l'heure, vous avez un peu évoqué pourquoi cette période et pourquoi précisément ces dates, parce que c'était sa période essentiellement consacrée à la...
À la joaillerie, et avant d'arriver donc après à ce que l'on connaît davantage peut-être, qui est le verre.
Oui.
Et qui
se situerait après 1912.
Après 1900. Il commence après 1900 déjà à travailler le verre, mais il y a toujours les bijoux. Mais c'était pour montrer vraiment cette transition. Une transition n'est jamais brutale. Donc.
Et comment vous l'avez conçue, cette exposition ? Dans quel esprit ?
Alors, en fait, on a souhaité commencer cette exposition par une espèce de bain dans l'époque, c'est-à-dire montrer la méthode de travail de René Lalique. La méthode de travail, cela sous-entend aussi bien les dessins que les premiers bijoux, que les influences, et ensuite pour arriver à cette expression donc, de ce qu'on appelait l'art total. Donc il y a une première partie d'exposition qui se réfère aussi bien à la joaillerie, donc avec un bijou qui est signé Weber, mais on sait que Lalique l'a dessiné. C'est un bijou, je crois que vous en parlerez, sur des oiseaux.
Oui.
Et puis très vite, on voit les influences aussi du Moyen-Âge, donc un Moyen-Âge qui a été revisité par Viollet-le-Duc, notamment avec des pièces qui mettent en scène des chauves-souris. La chauve-souris étant, par exemple, au Moyen-Âge, on clouait les chauves-souris sur les portes.
Oui.
Et on a un dessin de René Lalique.
Pour chasser le diable, je crois.
Et on a un dessin de Lalique où il représente une chauve-souris clouée sur une porte. Mais bon, on ne connaît pas le bijou. Mais sinon, il y a plein de bijoux. Il y a des peignes.
Des motifs de chauves-souris, oui.
Il y a un peigne qui est surmonté par des chauves-souris. Donc déjà, on peut imaginer quel genre de femme pouvait porter un peigne surmonté avec des chauves-souris. Donc, des
sorcières, il faut dire qu'il les transforme d'une telle manière, c'est tellement merveilleux qu'on...
Oui, que c'est même humoristique, quand on les regarde de près, elles sont drôles, ces chauves-souris. Et curieusement, on en retrouve aussi dans des mangas japonaises, on retrouve exactement les mêmes. Donc tout ça est un mélange entre le Moyen-Âge, entre le japonisme... Donc on voulait montrer aussi la Renaissance, donc on a des pièces qui évoquent complètement des agrafes, par exemple, que l'on retrouvait dans la joaillerie de la Renaissance. Et puis, évidemment, l'Égypte, puisque l'on est encore en pleine égyptomania. Oui. Et donc on voulait rassembler des œuvres qui évoquent tout ce climat de l'éclectisme, des influences qui ont vraiment marqué la fin du XIXe siècle.
Mais si vous voulez bien, nous pourrons faire donc un tour des différentes salles avec les principales pièces que vous avez donc regroupées plus ou moins par thème. Alors nous ouvrons cette visite par une salle où règne une ambiance demi-obscure dans une très belle scénographie conçue par Hubert Le Gall.
Hubert Le Gall. Alors Hubert Le Gall est avant tout un artiste, un designer. Et c'est quelqu'un qui, en même temps, bon, il fait aussi des mises en scène d'exposition. Et c'est quelqu'un dont l'univers créatif, enfin, je pense justement à ses pièces de design, a une parenté, je dirais, avec Lalique. Et c'était une rencontre vraiment extraordinaire, je trouve, entre ce jeune designer et donc ce maître qui est René Lalique. Et cette rencontre fait que cette exposition fonctionne bien.
Manière, oui.
Il y a quelque chose qui marche bien.
La nature.
Voilà. Donc il y a vraiment, ce sont des affinités, je dirais, des bonnes affinités.
Oui,
tout à fait.
Oui. Dans cette première salle, on découvre déjà ces merveilles. On est tout à fait ébloui. Et comme vous venez de dire, c'est regroupé par thème. Et on peut évoquer quelques pièces qui vous frappent particulièrement.
Je pense qu'il y a une pièce qui frappe tout le monde quand on arrive dans cette exposition. Et c'est une pièce que je crois que vous aimez bien. C'est cette pièce avec les petits oiseaux chanteurs.
Ah, les oiseaux. Vous permettez que je lise un petit commentaire, parce que le musée a eu la bonne idée de faire un petit guide pour enfants, pour justement aiguiser leur regard. Alors, le commentaire pour les enfants de cette magnifique broche donc, qui s'appelle « Oiseau chanteur », qui était créée autour de 1890, par là aussi, oui. Sur un rameau fleuri, trois petits oiseaux décorés d'une multitude de diamants et de quelques rubis chantent l'arrivée du printemps. Alors on voit des oiseaux gazouillants cette branche de, comme on pourrait imaginer, un cerisier japonais par exemple.
Tout à fait.
Alors couverts de petits diamants.
Ouais.
Il n'en manque pas un.
Ah non, là c'est vraiment une pièce charmante. Et en pendant, d'ailleurs, de cette pièce, on a des dessins qui sont d'une pureté. On voit tous ces oiseaux dessinés, saisis en plein vol, qui sont juste à côté, enfin présentés à côté de cette pièce.
Oui. Et puis, il y a le fameux collier « Femmes, insectes et signes noirs », qui est très spécial.
Ah, ça, c'est une pièce qui est... Ah oui, tout à fait, qui est vraiment une pièce symboliste, on a envie de dire symboliste. En plus, elle est placée presque en dessous un tableau de Gustave Moreau. Et dans cette pièce, on retrouve, donc c'est un fabuleux collier, avec des opales qui séparent des femmes presque entourées de signes noirs, donc de signes un petit peu inquiétants. Et là, il faut vraiment remarquer, en fait, ce sont ces opales qui sont merveilleuses.
Très fin, oui.
Et l'opale était vraiment une pierre qui était délaissée par les bijoutiers ou les joailliers, parce que c'est une pierre extrêmement fragile à travailler. C'est-à-dire, c'est une pierre qui peut exploser sous un petit coup, comme ça, elle peut exploser. Donc, elle est difficile à travailler. En même temps, quand on regarde à travers la lumière une opale, il y a une espèce de goutte de sang, une goutte rouge. Donc, il y a comme un aspect rouge, comme ça, que l'on appelle une goutte de sang. Et donc, comme ce n'est pas une couleur qui reste, elle varie tout le temps avec la lumière, c'est un peu laiteux, un peu orangé. Donc elle a un côté maléfique.
Translucide, enfin...
Oui, mais pas très... C'est pas très franc, tout ça. On n'est pas dans une couleur franche,
comme le nette, rubis,
et ça.
Oui.
Pas du tout. Là, il se passe beaucoup de choses il y a toujours un petit peu d'éclat, etc.
Donc c'est très caractéristique pour cette période symboliste.
Ah oui, 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 oui. Puis René Lalique, vraiment, met l'opale, enfin, il y a beaucoup de bijoux avec des opales. Il adore les opales, c'est le maître des opales.
Oui.
Et puis, il y a
les
ces signes noirs.
Laiteuses.
Hein. Oui, 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 oui. Et puis, il y a ces signes noirs, donc ces signes qui symbolisent, blanc, c'est la femme dévoilée,
À chaque pièce du collier, il y a une femme qui devient comme une femme libellule.
Ouais.
Et il y a des signes noirs.
Ouais, c'est un collier. Enfin, c'est une pièce un peu menaçante, comme ça, quand on la regarde de près. Puis en même temps, c'est une pièce absolument merveilleuse.
Elle est extraordinaire, extravagante, vraiment d'un raffinement et d'une somptuosité fabuleuse. Et en plus, je crois que Lalique a même pensé à l'adapter au cou d'une femme. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout pareil devant et derrière. C'est vraiment bien adapté.
Il y a un petit décochement à un moment sur deux pendants, de façon à ce qu'elle vienne bien s'adapter sur les salières, en fait. Et c'est une pièce qui vient du Metropolitan Museum of Art.
Donc oui. D'ailleurs, tout à l'heure, on peut peut-être évoquer un petit peu, parce que avez dû avoir un peu de mal pour rassembler toutes ces merveilles à travers le monde, parce qu'elles sont dispersées un peu partout. Mais pour continuer un petit peu des pièces majeures de cette exposition, qui est déjà, comme son nom l'indique, d'exception, il y a ce pendant de cou qui est une pure merveille, qui est presque symbolique pour les bijoux de Lalique, qui est la fameuse princesse lointaine. Un pendant de cou en émail opaque sur or, diamant quand même.
Oui, oui, un petit peu de diamant
quand même. Le diamant.
Oui, un petit peu quand même,
Et des améthystes.
On voit une femme qui est accompagnée d'un espèce de grand lévrier bleu et qui se détache sur un fond d'arbre. Donc là, on pense un petit peu au bois sacré. Et si on regarde très bien la pièce, on voit un petit bout d'étang, donc qui est en émail bleu. Et il y a quelque chose de très curieux. Quand on regarde cette pièce, on la voit comme ça devant, c'est absolument merveilleux, on est devant un paysage. Et cette pièce est faite pour être portée ainsi, enfin, vue de face, comme ça. Mais quand on la retourne, donc là, c'est complètement intime, je veux dire, parce que c'est pas du tout fait pour être portée de l'autre côté. Oui. Mais de l'autre côté, il y a ce bois sacré, enfin, cette espèce de forêt, de petite forêt comme ça, qui se détache. Et tous les arbres sont en argent et leur écorce est dessinée. Et ça, c'est une merveille. Bon, ça, c'est vraiment le privilège en même temps du commissaire quand on voit arriver les pièces et qu'on les place. Et là, c'est une pièce qui a été faite aussi pour être tenue dans la main et regardée de dos.
Est-ce que c'était offert à Alice ? Ou en rapport avec Alice ?
Non, on ne sait pas en fait à qui réellement elle a été offerte. Tout ce que l'on sait, c'est que Sarah Bernhardt, à cette époque-là, jouait une pièce qui était La princesse lointaine, une pièce de Rostand. D'ailleurs, dans l'exposition, à côté de ce pendentif, on a un exemplaire d'un ouvrage de Rostand que Rostand a dédicacé à Sarah, qui est la princesse lointaine.
Et aujourd'hui, elle se trouve ?
C'est une collection privée, aujourd'hui. Mmh. Et dans l'exposition, on voit une femme sculpteur, qui porte ce pendentif. Au début de l'exposition, avec une loupe, on voit qu'il s'agit de ce pendentif.
Ah oui, oui.
Donc il a voyagé, il a été...
Oui, mais c'est une pure merveille.
Ouais.
Ou encore
c'est un voyage,
les fleurs d'aubépine... avec toujours l'or, un verre au palais sang, on pourrait dire, de l'émail, toujours,
ouais, toujours
des diamants,
de
ou le cygne.
Enfin, il y a beaucoup de bijoux avec des représentations de cygnes. Et puis il y a ce côté vivant, enfin, je pense à la fleur d'aubépine dont on vient de parler. Mais cette fleur d'aubépine, en fait, c'est une aubépine qui est fleurie, mais qui est sur le point, qui commence à flétrir un petit peu. Et ça, c'est une caractéristique de l'alique qu'il doit vraiment à l'art japonais. C'est cette représentation de la nature vivante. Et même quand elle commence à mourir, quand elle commence à décliner, il la représente. Et donc c'est cet aspect vivant qui est quand même très, très remarquable chez l'alique.
Oui, à cette occasion, on peut peut-être mentionner le guide officiel de l'exposition qui est en partenariat avec Paris Match et qui donne quelques reproductions de ces merveilles de bijoux. On peut pour l'instant se contenter de la reproduction sur papier glacé à défaut de les porter autour de son cou. On a évoqué tout à l'heure les insectes, les guêpes ou les libellules, les chauves-souris, vous en avez parlé. Toutes ces créatures de la nature se retrouvent dans ces merveilleuses pièces.
Oui, et puis quelquefois un peu menaçante pour les femmes, parce que quand même, vous parlez des guêpes, mais il y a une épingle à chapeau qui vient de Copenhague. Et donc, il y a toute cette multitude de guêpes qui sont faites pour être quand même au-dessus de la tête de la femme.
Oui.
Et c'est quand même très, très étonnant de songer...
Oui, c'est dans une épingle de chapeau. Oui.
Voilà. Donc, est-ce que c'est... qui menace-t-il, là ? Je ne sais pas. La femme... Enfin, il y a un clin d'œil quand même très...
Mais il faut dire que c'est tellement magnifique et tellement subtil que même la guêpe ne nous fait plus
non,
peur.
Non, on l'entend presque. On entend presque les guêpes. Quand on regarde cette pièce, on a... On a presque l'impression de les entendre.
Nous avons un tout petit peu évoqué les matières avec lesquelles travaille l'alique, mais peut-être on peut quand même les détailler un peu. Donc il y a aussi le jade, l'onyx, l'émail bien sûr, l'ivoire aussi, la corne blonde qu'ils utilisent beaucoup,
oui.
Oui, comme aussi les Japonais.
D'inspiration japonaise aussi. Je crois qu'il va même plus loin parce que la corne, il arrive à évoquer des branchages avec la corne. Il y a un peigne dans l'exposition, un peigne qui représente une branche de prunus, donc un arbre japonais, et qui est fait en corne. Et la corne est vraiment, il est tellement bien travaillé qu'on a l'impression de toucher un vrai branchage. Ça, c'est extraordinaire. Donc, il travaille des matériaux qui sont inhabituels pour l'époque. Je pense aussi au chrysoprase, qui est cette espèce de pierre verte qui se rapprocherait presque des turquoises.
Ah,
mais c'est un vert très particulier.
Il s'appelle comment, pardon ?
Chrysoprase.
Qui est une pierre semi-précieuse.
Une pierre semi-précieuse.
Oui.
Il y a la branche de corail, enfin, il y a un bijou avec une branche de corail qui est merveilleux parce que la branche de corail souligne de façon extraordinaire un visage de femme. Enfin, ça, c'est une pièce qui pourrait être tout à fait contemporaine d'ailleurs, qui pourrait être datée d'aujourd'hui.
Ça, oui, là, je crois que vous parliez du pendant de cou aussi,
tout à fait.
Au profil de femme. Mais là, cette fois-ci, je crois que c'était bien inspiré par Alice.
Hein. Oui, tout à fait.
Écoutez, on arrive malheureusement au terme de ce merveilleux voyage, dans le vrai sens du mot. Merci beaucoup, Dany Soto, de nous avoir accordé ces quelques moments de grand bonheur, d'évoquer et d'avoir guidé notre imaginaire, surtout à travers l'œuvre sublime de René Lalique. Et je rappelle l'exposition de ces bijoux d'exception que l'on peut encore visiter jusqu'au 29 juillet 2007 au Musée du Luxembourg, situé dans les Jardins du Luxembourg à Paris. Merci beaucoup, Dany Soto.
Merci.